Bonjour et bienvenue sur Neptune FM, je m'appelle Laurence Dorlac, j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette cinquième édition de Rendez-vous avec les auteurs de l'Île-Dieu, une île des auteurs, initiée par Marie de Henzel en 2009. Et toute cette semaine, nous allons passer pas loin d'un quart d'heure ensemble avec cinq auteurs que vous pourrez retrouver sur le port le 9 août. Donc pour aujourd'hui sur Neptune FM, j'ai le plaisir de recevoir Jean-François Henry. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Bien sûr, vous êtes docteur en histoire, vous avez consacré plusieurs ouvrages à l'histoire de l'Île-Dieu dont vous êtes originaire. Votre travail est notamment soutenu récemment par le CVRH, le Centre Vendéen de Recherche Historique, avec qui vous avez édité en 2014 un ouvrage absolument passionnant sur la vie quotidienne de l'Île-Dieu dans la Grande Guerre. Et puis, il y a cette année, ce petit opus, petit mais fort intéressant, 9 euros à peine, je le dis pour ceux que ça pourrait rebuter, qui s'intitule « Un tableau ». Ex voto, le français. C'est dans la collection Trésors de Vendée, je le signale, parce qu'on va expliquer ensemble ce que ça veut dire. Donc c'est un ouvrage qui raconte finalement un tableau, mais pas n'importe quel tableau.
Effectivement, ce tableau, dont l'original se trouve actuellement au presbytère de la paroisse Saint-Amand de l'Île-Dieu, se trouvait autrefois dans la chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Et actuellement, on peut voir une copie de très bonne qualité qui présente ce tableau qui est sans doute le dernier ex-voto marin qui a été déposé dans cette chapelle.
Ex-voto, nous y voilà. La locution latine dit « d'après le vœu, d'après ce qui a été souhaité ». Un ex-voto, Jean-François Henry, est-ce que c'est toujours religieux ? Qu'est-ce que c'est ?
Oui, on peut dire qu'un ex-voto est toujours religieux, mais il n'est pas forcément chrétien. Il y a des ex-voto dans l'Antiquité, il y a des ex-voto... C'est une relation entre des personnes par rapport à une puissance divine, en quelque sorte. Et on peut dire qu'il y a trois types d'ex-voto. Il y a les ex-voto que l'on connaît le plus souvent, qui sont des ex-voto de remerciement. Il y a des ex-voto qui sont des demandes de protection. Et des ex-voto qui sont comme des ex-voto de commémoration pour marquer un événement.
Ex-voto de mémoire.
Voilà, en quelque sorte, oui.
Vous citez. Et ça a toujours rapport le plus souvent avec un naufrage ou avec le fait d'avoir été sauvé d'un naufrage pour éviter une tempête, donc un naufrage
Pour le milieu maritime, oui, mais il y a des ex-votos dans les pays, par exemple, montagnards ou dans d'autres régions. Mais c'est vrai que le milieu maritime étant un milieu essentiellement de danger, il est plus susceptible de provoquer ce genre de relation avec l'au-delà et l'extrême.
Donc, le plus souvent, il y a énormément plutôt d'ex-voto marins, en fait.
Les ex-voto marins sont les plus fréquents, effectivement.
J'aime beaucoup cette phrase que vous citez d'un philosophe de l'Antiquité. Il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et Jean-François Henry.
Et les marins.
Et ceux qui vont sur la mer.
Absolument.
Parce que quoi, quand on est sur la mer, on est entre le monde des morts et des vivants.
Oui, mais il faut bien aussi remettre cela dans un contexte d'Antiquité. C'est-à-dire que pour le monde des premiers siècles, c'est un monde extrêmement étrange. D'une part, on ne connaît pas l'intérieur. C'est toujours été considéré comme un lieu presque hanté par des puissances inconnues. Le fond de la mer, il faut reconnaître que même aujourd'hui, on est capable d'aller dans les astres les plus lointains et on n'est pas encore capable d'aller vraiment au fond de la mer. C'est assez paradoxal.
C'est vrai.
Et pour beaucoup de gens, la mer est aussi un endroit qui est mouvant et qui ne laisse aucune trace. Quand on est sur la terre, on a un chemin que l'on connaît. Quand on est en mer, le sillage s'efface immédiatement, il n'y a plus de route. Alors les marins ont leur route à eux, mais les terriens ne comprennent pas ces routes-là.
Donc ça donne aux ex-voto une puissance quelque part particulière, une forme de communication avec presque un impossible.
Oui, en quelque sorte, et c'est toujours lié à un moment extrême, c'est-à-dire qu'à un moment où toutes les forces humaines sont en quelque sorte anéanties, il n'y a plus qu'un seul recours, c'est la puissance divine. Alors pour les chrétiens, bien sûr, c'est se tourner vers Dieu et souvent par l'intermédiaire ou soit de Marie, soit d'un saint protecteur, mais c'est au moment où la force humaine est absolument limitée, ne peut plus intervenir. Donc là, on a ce recours.
Elle est dépassée, absolument. Donc il faut un recours. Et on va voir que dans cet ex voto-là, ce tableau-là, qui concerne en fait le français, qui est en fait un bateau, pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient encore ce tableau, eh bien il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension spirituelle, et puis il y a presque une dimension de mémoire, d'un rapport de fils à son père, et de renvoi, de demande de fils à son père. Mais avant de rentrer plus dans le détail, je voudrais qu'on s'intéresse à cette petite signature qu'il y a sur votre ouvrage, Trésor de Vendée, juste pour saluer le travail du Centre Vendéen de Recherche Historique. Qu'est-ce qu'on veut pointer là ?
Alors, ce qu'on veut pointer, c'est à travers des monuments qui sont ouverts au public, des éléments très, très précis. Vous voyez, par exemple, un des numéros a été de centrer sur l'archange Saint-Michel qui se trouve au sommet de l'église Saint-Michel-Mont-Mercure en Vendée. Mmh. Eh bien, l'histoire simplement de cette statue, vous voyez, de centrer sur un point précis.
Juste la statue.
Voilà, simplement la statue. Et montrer que cette statue, elle est en relation avec tout un univers très intéressant, notamment le lien entre Saint-Michel et Mercure, puisque c'était une reprise. Autrefois, par exemple, le mont Saint-Michel en Normandie était le mont Mercure. Et on reprend, vous savez que Mercure était un dieu ailé, et Saint-Michel devient l'archange ailé. Donc vous voyez cette reprise-là.
Ça y est, je vais me faire attraper. Je vous ai déjà eu le plaisir de vous écouter sur Neptune FM, Jean-François Henry. Et dès que vous parlez de quelque chose, on a envie de continuer. Mais là, il ne s'agit pas de cette statue-là.
Non, je m'arrête.
Je vais revenir sur ma route à moi, qui est celle d'évoquer aujourd'hui ce livre, Un tableau ex voto le français. On va y arriver tout de même. Alors, on rentre dans cette chapelle. On voit, je le signale pour les petits malins, et il y en a beaucoup en certaines périodes de l'année qui pourraient avoir de très mauvaises idées. C'est une copie qu'on voit en ce moment. Depuis quelques années. Donc ce tableau est une copie extrêmement fidèle. Oui. Il s'agit d'un tableau, d'un Dundee dans la tempête.
Voilà. Et cette tempête, c'est la tempête de 1930, qui a été une des tempêtes les plus horribles au niveau de tout le... En quelque sorte, la flotte bretonne et vendéenne sur la côte atlantique.
Alors il faut resituer quand même un petit peu le contexte. Je l'ai appris grâce à vous. Oui. 1930, on sort d'une guerre. Voilà. On va rentrer dans une autre.
Voilà.
Beaucoup de morts pendant cette première grande guerre, 130 morts pour Lille-Dieu, je parle de Lille-Dieu.
Voilà. 130 morts, oui.
Donc bon, voilà, beaucoup d'hommes qui sont partis, peu de possibilités de lancer des bateaux, et après la guerre, donc des armateurs qui relancent des fabrications.
Voilà, qui relancent les fabrications, et c'est là, on peut dire que l'entre-deux-guerres va être l'apogée de la pêche au thon et au thon blanc, le thon Jarmon. Et pour la flottille insulaire, comme les flottilles bretonnes, ça va être vraiment l'apogée avec les Sables d'Olonne, l'Île-Dieu, avec Concarneau, Douarnenez, etc. Quoi.
C'est là qu'on
Estelle.
C'est là qu'on sent d'ailleurs une forme de mutation un peu pour l'île, où beaucoup de terres plutôt dédiées aux agriculteurs vont être laissées au profit de la pêche.
Hein. Voilà, c'est la chute totale de l'agriculture. L'attrait de la mer est tel que tout le monde s'embarque. Et la personne en question, Tarot, lui-même était agriculteur et après la guerre, il devient marin.
Voilà. Donc il y a toute cette symbolique. Voilà. Hein. Surtout ne plus voir, j'espère aussi après cette émission, un simple tableau, un simple bateau qui est dans la mer. Il y a énormément d'enjeux derrière ça. Oui. Le français, c'est quoi alors ? C'est un Dundee,
Dundee,
ceux qui ne connaîtraient pas.
C'est un bateau à voile, donc si vous voulez, classique, hein, c'est-à-dire avec des mâts, deux mâts, un tape-cul, et puis une grand voile, des flèches, et puis il pêche le thon avec des perches sur chaque côté. C'est une pêche traditionnelle que l'on faisait à cette époque-là.
Hein ? Alors, on va se resituer dans cette nuit de tempête. Oui. Il y a énormément de bateaux qui sont partis. On a dit, il y a un regain, on relance un petit peu la pêche. Et puis, une tempête absolument dingue.
Absolument, et qui se trouve à ce qu'on appelle les accores, c'est-à-dire au moment où le plateau continental se relève. C'est-à-dire qu'il y a un endroit très précis, au large notamment de la côte atlantique et de l'Irlande, où il faut être soit carrément au-delà ou en dedans, mais pas à cet endroit-là, au moment où la mer, finalement, fait un ressac avec le fond de l'océan qui remonte. Hein, vous voyez, donc là, c'est ce qu'on appelle les accores, qui est très dangereux.
Parce qu'il y a une faille en dessous parce qu'il y a
Il y a une remontée du plateau.
Plutôt une remontée du plateau, d'accord.
Okay. Voilà, donc cet endroit-là est très dangereux. Ils sont à pêcher et à cette époque-là, il faut bien rappeler qu'il n'y a aucune radio, hein, il n'y a aucune assistance météo et qu'ils pêchent tous en groupe. Donc, ils sont là, plusieurs centaines à pêcher. Lorsque brutalement, le baromètre va s'effondrer et la tempête va se déclencher en quelques heures. Donc, ils ne peuvent plus maîtriser leur bateau et beaucoup d'entre eux vont s'entrechoquer. Hein? Et donc, pour certains pays, comme par exemple pour Etel, il y aura plus de morts dans cette nuit-là que pendant la guerre 14-18.
Ah oui, Donc c'est quand même
absolument épouvantable.
Une nuit de 1930
voilà.
épouvantable.
Hein, plusieurs centaines de morts.
Alors, qu'est-ce qui fait que, quelque part, le français s'en est sorti?
Alors, ce qui se passe, c'est que d'abord, chose étonnante, les bateaux de l'Île-Dieu n'ont subi aucune victime. Il y a eu des avaries, mais aucune victime. Alors, il y a plusieurs débats. Moi, je ne suis pas marin, donc je ne peux pas intervenir sur les techniques, mais on pense que la façon de construire les bateaux était relativement différente. Et les marins de l'Île-Dieu construisaient relativement lourds, donc capables de mieux supporter les attaques de l'océan. Bon, ça, je laisse cette interprétation à d'autres. Par contre, le français, lui, se trouve comme beaucoup d'entre eux à la cape, c'est-à-dire qu'il se met à attendre que le mauvais temps passe. Donc il réduit la voilure au minimum pour rester face à la lame. Et il n'y en a qu'un qui reste sur le pont à surveiller, et tous les autres sont au fond du bateau, au fond. Simplement à attendre.
Voilà, hein. je voulais que vous racontiez ça parce que c'est ce qu'on voit exactement voilà. sur ce tableau. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit les voiles à la cape.
Voilà, réduites au maximum.
Réduites au maximum et une petite silhouette voilà. orange voilà. d'un homme. Voilà. Et ça semble complètement dingue parce qu'il y a une énorme vague.
Voilà,
voilà bien sûr, hein, c'est la tempête. Et c'est une attitude volontaire voulue pour tenir bon.
Voilà, il attend, il est là de veille.
Comment sait-on tout ça, Jean-François
Henri? On le sait parce qu'ils ont tous été rescapés. Donc la première, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont reçu un paquet de mer tel que le pont a été enfoncé de 20 cm. Donc il faut imaginer ce que ça représente, vu l'épaisseur des madriers. Et normalement, les vagues attaquent toujours en meute. C'est-à-dire, on le sait,
par trois ou quatre.
Voilà. Ouais. Donc quand ils ont eu ce premier paquet de mer, ils ont eu quelques secondes, ils se sont dit, nous sommes fichus. C'est-à-dire que s'il y a un deuxième paquet, le bateau n'aura pas le temps de se relever et il sera écrasé une deuxième fois. Et là, il est perdu. Et c'est ce moment-là qui est une affaire de quelques secondes qui a impressionné tellement Jean-Baptiste Tarot qu'il a cru que c'était la fin de sa vie. Et il s'est consacré à ce moment-là en disant, si je m'en sors, eh bien, il n'a pas parlé à ce moment-là de tableau, mais je ferai quelque chose. Voilà.
Il y a une forme d'invocation,
voilà.
comme souvent font
voilà.
les marins,
voilà.
Et ce n'est jamais en vain.
Voilà.
Autre voilà. citation que vous mettez voilà. dans votre ouvrage. Donc Jean-Baptiste Tarot, ex-cultivateur, voilà. qui devient marin, qui est sur ce Dundee le Français.
Voilà.
Il n'y a qu'un seul paquet, qu'une seule vague,
une
finalement.
Seule vague.
Peut-être
voilà.
une main, entre guillemets, divine, on ne sait pas.
Voilà.
Il s'en sort, il revient sur Terre, et là, il dit à sa famille et donc à son fils.
Voilà. Alors plus tard, juste une précision. Le paquet de mer écrase le pont, il casse un tangon, il faut voir ce que c'est qu'un tangon, hein. On le voit sur le tableau, et arrache pas mal de choses. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup d'avaries sur les autres bateaux de l'Île-Dieu, hein. Beaucoup reviennent en piteux état, mais ils reviennent tous. Chose quand même étonnante, c'est que le français ne revient pas parce qu'il s'est relevé, et que fait le patron? Il dit, bah, les gars, c'est pas le tout, mais on est à la pêche, hein. On est en mer, il ne s'agit pas... Il ne se rend pas compte du désastre.
Georges Chailloux, sacré patron quand même.
il ne se rend pas compte du désastre, lui, parce qu'ils sont tous en mer, il n'y a pas de radio. Donc, ils continuent à pêcher. Et à l'Île-Dieu, on se dit, le français est perdu.
Ouais. Ouais.
Et pendant longtemps, plusieurs jours, on attend. Et brusquement, on voit le français qui revient, en piteux état, mais qui revient avec une belle pêche.
Ouais, en plus. sacré moment de ténacité.
Bon, donc, nous sommes en 30. Son fils n'a que 2 ans. Donc, c'est Jean,
le fils de Jean-Baptiste,
voilà,
Jean Tarot.
Et qui a très tôt manifesté des dons de peintre, de dessinateur. Et donc, quand son fils, qui devient lui-même marin, montre qu'il a vraiment des talents, à ce moment-là, le père dit, écoute, je voudrais, il y a quelque chose qui me hante tous les jours, parce que c'est un ancien de 14-18. Hein. Jean-Baptiste a été dans les tranchées. Et lui, il a peur de sa vie. Ce n'est pas les tranchées, c'est cette tempête. Et donc, il demande à son fils de réaliser un tableau pour, en quelque sorte, remercier Notre-Dame de Bonne-Nouvelle à la Meule d'avoir protégé l'équipage et lui-même. Donc, il va demander à son fils de faire ce tableau.
Et Jean Tarot, il faut le signaler, a fait partie de l'association des artistes indépendants des Sables
voilà.
d'Olonne, des artistes peintres.
Voilà.
Donc voilà, donc un don qu'on lui repère à l'école.
Voilà.
On l'encourage
voilà.
dans cette voie.
Oui.
Manifestement, il gribouille, il peint des bateaux
oui.
quand il
oui.
est jeune. Et puis de plus en plus grand, manifestement,
voilà.
il arrive à cultiver ce don. Il devient gardien de phare. Alors là aussi, dans votre ouvrage, c'est toujours l'occasion d'apprendre qu'il y a 3 types de phares.
Voilà.
En mer, c'est l'enfer.
Voilà.
Sur les îles,
c'est le purgatoire.
Et sur sur le continent.
C'est l'enfer-paradis.
Donc lui, comme il va être où alors? Il va être un peu en enfer en début de carrière.
Il commence par ce qui est logique. Hein, il commence par l'enfer. Voilà. Mais pour lui, c'est déjà magnifique parce que par rapport à l'univers d'un tonnier qui est très réduit, le fait d'être dans un phare, pour lui, c'est déjà le confort.
Voilà. Donc de 15 à 52 jours, s'il y a voilà. tempête, il peut rester. Voilà. Il a de la place, il peut peindre.
Il peut peindre. Même
en enfer.
Même quand il y a du mauvais temps, il faut, comme il dit, cincer la place parce que l'eau arrive à transpercer les murs du phare. Hein. Mais il va peindre et donc il va faire des esquisses qu'il va présenter à son père quand il viendra en permission. Et là, il peint en marin. C'est-à-dire que la peinture d'un marin, c'est une peinture exacte car l'exactitude du tableau est en relation avec la véracité du témoignage. Voilà, donc c'est voilà la nécessité de peindre exactement comme ça s'est passé.
Donc il va peu à peu rectifier jusqu'à obtenir l'exacte réalité. Et quand le tableau est prêt?
Eh bien, il le peint, il le roule sur un manche à balai pour sortir du phare.
D'accord.
Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que le phare est en mer et pour embarquer dans le phare, c'est pas rien. Et il va le mettre à la chapelle.
Et voilà pourquoi, si on se trouve devant cet ex-voto, même si c'est une copie, mais je vous assure, une parfaite copie, dans cette chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, il faut y voir un ex-voto voulu par le Père.
Voilà.
Alors là, cette fois-ci, on est dans quelque chose de spirituel. Voilà. Et puis cet ex-voto voulu par le Fils pour son Père.
Voilà. Et je voudrais rendre hommage quand même à Jean, puisque Jean Tarot, l'actuel peintre de ce tableau, est toujours vivant. Et malheureusement, il ne sera pas là, mais j'aurais souhaité qu'il soit là.
Mais j'espère qu'il est auditeur de Neptune FM.
Naturellement.
Mais naturellement. Merci beaucoup, Jean-François Henry. Un tableau ex-voto, le français, c'est aux éditions du Centre Vendéen de Recherche Historique, Neufereau, et bien sûr dans toutes les librairies, et surtout celles sur le port. Merci.
Merci.